écoutez KTO Radio, il est 23h. KTO Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui,
la Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 17e. Ressouviens-toi, lecteur, si jamais dans les Alpes te surprit le brouillard, à travers lequel on voit ainsi que voient les taupes à travers leurs têtes, de quelle façon, lorsque les vapeurs humides et épaisses commencent à se raréfier, le soleil faiblement y pénètre, et que ton imagination soit prompte à se représenter comment je revis d'abord le soleil qui se couchait. Ainsi, réglant mes pas sur ceux de mon maître fidèle, je sortis de ce nuage et retrouvai les rayons déjà morts sur les rivages bas. Ô imaginative, qui tellement quelquefois nous sépare des choses du dehors, qu'autour de nous sonneraient mille trompettes, point ne les entendrions qui te meut si ne t'excite les sens? Te meut une lumière qui s'informe dans le ciel, ou de soi-même, ou par le vouloir de celui qui en bas l'envoie. De l'impie dont la forme se changea en celle de l'oiseau, qui a chanté le plus se délecte, j'eus la vision interne et mon esprit en soi se replia si profondément qu'aucune chose du dehors n'y trouvait d'accès. Puis me tomba dans la haute fantaisie un crucifié superbe et farouche, et tel il se mourait. Près de lui était le grand Assuérus, son épouse Esther et le juste Mardochée, également intègre dans le dire et dans le faire. Et cette image s'étant brisée d'elle-même, comme une bulle à laquelle manque l'eau où elle se forma, dans ma vision surgit une jeune fille, pleurant et disant « Ô reine, pourquoi par colère as-tu voulu ne plus être? Tu t'es tuée pour ne pas perdre Lavinia, et maintenant tu l'as perdue. Elle-même suis-je, moi qui pleure, mère, ta mort avant celle d'un autre. Comme se rompt le soleil quand subitement une nouvelle lumière frappe les yeux fermés et rompu ce débat avant de mourir tout à fait, ainsi s'éteignit en moi l'imaginer, sitôt que frappa mon visage une lumière bien plus vive que celle à laquelle nous sommes accoutumés. Je me tournai pour regarder d'où elle venait, lorsqu'une voix dit « Ici l'on monte ». De toute autre pensée, elle me détourna et m'inspira un si grand désir de voir qui me parlait que rien ne l'aurait pu calmer que son objet même. Mais comme il advient devant le soleil qui éblouit notre vue et se voile de son propre éclat, ainsi ma force ici défaillait. Celui-ci est l'Esprit divin qui, sans être prié, nous indique le chemin pour aller en haut et se cache lui-même dans sa lumière. Avec nous, il fait comme l'homme fait avec soi, car qui voit le besoin et attend qu'on le prie, malignement déjà se met sur la négative. Maintenant que nos pieds obéissent à une si haute invitation, tâchons de monter avant que la nuit se fasse, après on ne le pourrait jusqu'au retour du jour. Ainsi dit mon guide, et lui et moi nous tournâmes nos pas vers un escalier, et dès que je fus sur le premier degré, je sentis près de moi comme un mouvement d'aile, et sur ma face passer un souffle, et j'entendis « Beati Pacifici », ce qui signifie « Bienheureux les pacifiques », qui point n'ont en eux de mauvaise colère. Déjà, au-dessus de nous si élevés, étaient les derniers rayons qui précèdent la nuit, que de plusieurs côtés paraissaient les étoiles. Ô ma force, pourquoi ainsi m'abandonnes-tu? Disais-je en moi-même, sentant que mes jambes s'affaiblissaient. Nous étions là où l'escalier cesse de monter, fixe comme le navire qui aborde la plage. J'écoutais un peu si j'entendrais quelque chose dans le nouveau cercle, Puis je me tournai vers mon maître et dis « Mon bon père, dis quelle offense expie-t-on dans le cercle où nous sommes. Si les pieds s'arrêtent, que ne s'arrête point ton discours. » Et lui à moi, « L'amour du bien séparé du devoir qui le règle ici se restaure. Ici est châtié le rameur paresseux. Mais pour que tu entendes mieux encore, écoute-moi, et tu retireras quelques bons fruits de notre retard. Mon fils, commença-t-il, ni le Créateur ni la créature jamais ne furent sans amour, ou naturel ou procédant de la raison, et tu le sais. Le naturel toujours est exempt d'erreur, mais l'autre peut errer dans le vice de l'objet, ou par trop peu de force. Tandis que vers les premiers biens il est dirigé, et que dans les seconds, il se mesure bien lui-même. Il ne peut être la cause d'un mauvais plaisir. Mais quand il se tord vers le mal, ou qu'avec plus ou avec moins d'ardeur qu'il ne doit, il court dans le bien, contre son Créateur agit la créature. De là, tu peux comprendre que l'amour en vous doit être la semence et de toute opération qui mérite une peine. Or, l'amour, ne pouvant détourner la vue du bien de son sujet, tout être est à l'abri de sa propre haine. Et parce que nul ne peut être conçu subsistant de soi et séparé du premier être, celui-ci jamais ne saurait être haï. Donc, si mes divisions sont exactes, le mal qu'on aime est le mal du prochain. Et cet amour sur votre limon naît de trois manières. Tel, en opprimant son prochain, espère l'excellence, et pour cela, seul il souhaite que de sa grandeur il soit jeté bas. Tel craint de perdre pouvoir, faveur, honneur, renommée, si un autre s'élève, et d'autant plus il s'en attriste, qu'il aime plus le contraire. Tel, d'une injure, paraît tant s'irriter qu'il devient avide de vengeance, et celui-ci, force est qu'il cherche le mal d'autrui. Cet amour triforme ici-dessous se pleure. À présent, je veux parler de celui qui court au bien d'une manière opposée à l'ordre. Chacun, confusément, conçoit un bien où l'âme se repose et le désire, et chacun s'efforce de l'atteindre. Si un lent amour vous attire vers lui, pour le voir ou pour l'acquérir, les tourments de cette corniche vous purifient, pourvu qu'ait précédé un juste repentir. Il est un autre bien qui ne rend pas l'homme heureux, il n'est point la félicité, il n'est pas la bonne essence de tout bien, ni dans son fruit, ni dans sa racine. L'amour qui trop s'y abandonne, au-dessus de nous se pleure dans trois cercles. Mais comme la raison montre qu'il est triple, point n'en parle, afin que par toi-même tu cherches. Chant 18e. À son discours, avait mis fin le grand docteur, et attentivement il regardait sur mon visage si je paraissais content. Et moi, que pressais encore une nouvelle soif, je me taisais au dehors et au dedans je disais « Peut-être qu'en trop demandant, je le fatigue. » Mais ce père vrai, qui s'aperçut du timide vouloir qu'en moi je renfermais, en parlant, me donna la hardiesse de parler. D'où moi, Maître, tant s'avise ma vue dans ta lumière que je discerne clairement tout ce que montre et trace ta raison. Je te prie donc, cher doux père, de m'enseigner quel est cet amour à quoi tu réduis toute bonne opération et son contraire. Fixe sur moi, dit-il, les regards pénétrants de l'esprit. Et te sera manifeste l'erreur des aveugles qui se font guides. L'âme, créée pour aimer, se porte vers tout ce qui plaît, sitôt que le plaisir l'éveille à l'action. De ce qui existe réellement, votre puissance perceptive attire l'image, et la déploie au-dedans de vous, de sorte que l'âme se tourne vers elle, et si vers elle étant tournée, elle s'y incline, ceci est la nature que le plaisir unit à vous par un nouveau lien. Et comme le feu se meut en haut, en vertu de sa forme, qui le porte à monter là où plus il subsiste dans sa propre matière, ainsi ayant perçu, l'âme entre en désir, qui est un mouvement spirituel, et jamais ne se repose qu'elle n'ait joui de l'objet aimé. Tu peux maintenant voir combien la vérité est cachée à ceux qui affirment que tout amour est louable en soi. Il se peut que bonne en paraisse toujours la matière, mais toute empreinte n'est pas bonne, bien que la cire soit bonne. Tes paroles et mon esprit qui les suit, répondis-je, m'ont découvert l'amour, mais de cela même naissent en moi de nouveaux doutes. Car si vient du dehors ce qui détermine l'amour, et que l'âme n'ait point d'autre moteur, qu'elle aille droit ou qu'elle dévie, ce n'est pas son mérite. Et lui à moi, tout ce qui s'y voit la raison, je puis te le dire pour ce qui est au-delà, attends Béatrice, car c'est sujet de foi. Toute forme substantielle distincte de la matière et unie avec elle a en soi une vertu spécifique, laquelle n'est sentie que par son opération et ne se manifeste que par son effet, comme la vie dans la plante par le vert feuillage. Ainsi, d'où vient l'intelligence des premières notions et le sentiment des premiers objets que l'âme appète, l'homme ne le sait. Car ils sont en vous, comme dans l'abeille, l'instinct de faire le miel. Et ce premier désir n'a rien qui mérite louange ou blâme. Or, afin qu'à elle viennent s'unir toutes les autres, innée en vous est la vertu qui conseille et qui doit garder le seuil du consentement. Celle-ci est le principe qui vous rend capable de mériter selon qu'il accueille et choisit les bons et les mauvais amours. Ceux dont la raison a été au fond ont reconnu cette liberté innée, et ils ont ainsi conservé la morale dans le monde. D'où suppose que tout amour qui au-dedans de vous s'enflamme y naisse, nécessairement en vous est la puissance de le contenir. Par libre arbitre, Béatrice entend la noble vertu, au soin de t'en souvenir si elle t'en parle. La lune, qui avait retardé son lever presque jusqu'au milieu de la nuit, semblable à un bassin embrasé, nous faisait paraître les étoiles plus rares et à l'encontre du ciel, elle parcourait la route que le soleil enflamme, alors qu'à son déclin, ceux de Rome le voient entre les Sardes et les Corses, et cette noble ombre, par qui plus renommée est Piétola que la cité mantouane, avait déposé le fardeau dont je l'avais chargé. Pour moi, mes questions ayant reçu des réponses claires et simples, j'étais comme un homme qui, à demi endormi, rêve, mais des gens qui, derrière nous, se hâtaient, dissipèrent subitement cette somnolence, et comme jadis l'Ismène et l'Azope voyaient de nuit courir sur leur bord une foule ardente quand les Thébains avaient besoin de Bacchus, ainsi par ce que je vis de ceux qui venaient, dans ce cercle presse le pas celui qu'emporte un bon vouloir et un juste amour. Ils nous eurent bientôt joints, car en courant allait toute cette grande troupe, et devant elle deux criaient en pleurant. Marie, avec hâte, courut à la montagne, et pour subjuguer Herda, César investit Marseille et courut en Espagne. Vite, vite, que par peu d'amour point ne se perde le temps, criaient tous les autres qui suivaient. Le zèle de bien faire fait reverdir la grâce. Ô Jean, en qui maintenant une vive ferveur compense peut-être la négligence et le retard que par tiédeur vous avez mis à accomplir le bien, celui-ci qui vit, et certainement je ne vous mens pas, veut aller en haut, pourvu que le soleil nous éclaire. Dites-nous donc où est le plus près passage. » Ainsi parla mon guide, et l'un de ses esprits dit « Viens derrière nous, tu trouveras l'entrée. » De nous mouvoir si désireux nous sommes, que nous ne pouvons nous arrêter. Ainsi, pardonne, si te paraît rudesse l'effet de la justice en nous. Je fus abbé de San Zeno de Vérone, sous l'empire du bon Barberousse, de qui, avec douleur, parle encore Milan. Et elle a déjà un pied dans la fosse que bientôt fera pleurer ce monastère et qui s'attristera d'y avoir eu puissance parce que son fils, difforme de tout le corps et d'âme pire et qui mal naquit, y tient la place du vrai pasteur. Je ne sais s'il en dit plus ou s'il se tue, tant il nous avait devancés, Mais cela j'entendis, et il me plut de le retenir. Et celui qui en tout besoin m'avait secouru dit, « Tourne-toi par ici, et vois-en deux venir en gourmandant la paresse. » Derrière tous les autres, il disait, « Moururent ceux pour qui la mer s'ouvrit, avant que le Jourdain vît ses héritiers. » Et ceux qui, jusqu'à la fin, ne supportèrent pas la fatigue avec les fils d'Anchise et se plongèrent eux-mêmes dans une vie sans gloire. Puis, quand ces ombres furent si loin de nous qu'on ne les pouvait plus voir, en moi entra un nouveau pensée duquel divers autres naquirent, et de l'un à l'autre tant j'ondoyais que dans le vague mes yeux se fermèrent et la pensée se transforma en songe. Chant 19e. Alors que la chaleur du jour, vaincue par la terre ou quelquefois par Saturne, ne peut plus attiédir le froid de la lune, quand les géomanciens voient avant l'aube leur fortune majeure surgir dans l'Orient par un chemin qui longtemps ne reste pas obscur, m'apparut en songe une femme bègue aux yeux louches, courbée sur ses jambes torses, mutilée des mains et de couleur blafarde. Je la regardais, et comme le soleil ranime les froids membres engourdis par la nuit, ainsi mon regard délia sa langue, puis en peu d'instants, la redressa tout entière et colora comme le veut l'amour son visage défait. Lorsqu'ainsi elle eut le parler libre, elle se mit à chanter de telle sorte que je n'eusse pu qu'avec peine détourner d'elle mon attention. « Je suis, chantait-elle, je suis la douce sirène qui, au milieu de la mer, égare les mariniers, tant de mouir le plaisir est grand. De sa route errante, j'attirais Ulysse à mon chant, qui s'accointe avec moi, rarement me quitte si pleinement je le satisfais. » Sa bouche ne s'était pas encore refermée quand soudain, près de moi, apparut une femme sainte, pour la confusion de celle-là. « Ô Virgile, Virgile, qui est celle-ci ? » vivement disais-je. Et lui venait, les yeux fixés seulement sur cette femme pudique, il prenait l'autre et, fendant ses vêtements, par devant il la découvrait et me montrait le ventre, la puanteur qui s'en exhalait me réveilla. Je tournai les yeux et le bon Virgile, « Trois fois au moins, dit-il, je t'ai répété, lève-toi et viens. Cherchons l'ouverture par où tu puisses entrer. » Je me levai. Déjà le jour remplissait tous les cercles du sacré mont et nous allions les reins tournés vers le soleil nouveau. Et le suivant, je portais le front comme qui l'a chargé de pensées et qui fait de soi un demi-arc de pont lorsque j'entendis « Venez, ici l'on passe. » d'un parler si doux et si affectueux que de pareil on n'en entend point dans ce séjour mortel. Ouvrant ses ailes, semblable à celle du cygne, celui qui ainsi nous avait parlé nous dirigea en haut entre les parois du rocher. Sur nous ensuite il agita les pennes, déclarant « Heureux ceux qui luguent, parce que leurs âmes seront consolées. Qu'as-tu ? Qu'à terre seulement tu regardes ?» me dit mon guide, ayant tous deux l'ange un peu au-dessus de nous. Et moi, si soucieux vais-je, à cause de la nouvelle vision qui tant m'obsède, que je ne puis cesser d'y penser. Tu as vu, dit-il, cette antique magicienne qui seule désormais au-dessus de nous se lamente. Et tu as vu comment l'homme se dégage d'elle. Que cela te suffise, et de tes talons frappe la terre. Tourne les yeux vers le leur que te montre le roi, éternel dans ses orbes immenses. Tel que le faucon, qui d'abord regarde ses pieds, se tourne ensuite au cri et s'élance par le désir de la pâture qui devant l'attire, tel devins-je, et tel aussi que se fend le rocher pour donner passage à qui monte, allais-je jusque là où commence le circuit ? Lorsque, libre, je fus dans le cinquième cercle, j'y vis des gens qui, gisant à terre, la face en bas, pleuraient. Adaesit pavimento anima mea, ce qui signifie « Mon âme s'est attachée au pavé », je les entendais dire avec des soupirs si profonds que l'on distinguait à peine les paroles. Ô élu de Dieu, dont l'injustice et l'espérance rendent les souffrances moins dures, dirigez-nous vers les hauts degrés. Si vous venez sans avoir à craindre d'être ici gisant et voulez trouver le chemin le plus court, que votre droite soit toujours en dehors. » Ainsi pria le poète, et ainsi il lui fut répondu d'un peu au-devant de nous. Et moi, par le parler, je discernais celui qui était caché, et je tournais les yeux vers mon Seigneur qui, avec un signe de contentement, m'accorda ce que demandait le regard du désir. Quand je fus maître de disposer de moi, je m'approchai de cette créature que ses paroles m'avaient fait remarquer, disant « Esprit, en qui le pleurer mûrit, ce sans quoi tu ne peux retourner à Dieu, suspends un peu pour moi ton plus grand souci. Qui fus-tu et pourquoi vos dons sont tournés en haut? Dis-moi, si tu veux que je t'obtienne quelque chose, là d'où je suis parti vivant. » Et lui à moi, « Pourquoi veut le ciel que vers lui nos dos soient tournés? Tu le sauras. Mais auparavant, sias quod ego fui successor petri, ce qui signifie « Sache que je fus successeur de Pierre. » Entre Siestri et Chiaveri descend une belle rivière, de laquelle originairement ma race tire son nom. Durant un mois et un peu plus, j'éprouvais combien pèse le grand manteau à qui veut le préserver de la fange. Paraîtrait une plume tous les autres fardeaux. Ma conversion, hélas, fut tardive. Mais quand je fus fait pasteur romain, je connus la vie menteuse. Je vis que là ne s'apaisait point le cœur et que, dans cette vie, on ne pouvait monter plus haut, ce pourquoi de celle-ci en moi s'enflamma l'amour. Jusque-là, misérable et séparé de Dieu, fut mon âme tout avare. Maintenant, comme tu vois, j'en suis ici puni. Ce qu'opère l'avarice se manifeste ici dans la position renversée des âmes qui se purifient. Et le monde n'a point de peine plus amère. Comme nos yeux, fixés sur les choses terrestres, ne se tournèrent point en haut, ainsi la justice ici les attache à terre. Et comme l'avarice éteignit en nous tout amour du bien, par quoi se perd l'opéré, ainsi la justice ici nous tient resserrés, liés et pris des pieds et des mains, et tant qu'il plaira au Seigneur juste, nous resterons étendus immobiles. Je m'étais agenouillé et je voulais parler, mais comme je commençais s'étant aperçu par Louis seulement de mon acte respectueux, « Pourquoi, dit-il, ainsi te courbes-tu ? » Et moi à lui, « Parce que m'empresse ma droite conscience à cause de votre dignité. Redresse tes jambes, élève-toi, frère, répondit-il, ne te trompe point. Comme toi et comme les autres, d'une seule puissance, je suis le serviteur. Si cette parole évangélique « Neque nubent » tu entendis jamais, bien peux-tu voir pourquoi ainsi je parle. Va maintenant. Je ne veux pas que tu t'arrêtes davantage, car ta présence gêne le pleuré avec lequel je mûris ce que tu as dit. J'ai là une nièce nommée Aladjia, bonne de soi, pourvu que par l'exemple, notre maison ne la rende pas mauvaise. Elle seule m'est restée là. »
C'était « À haute voix », une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, la Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kteoradio.com et sur l'application KTO Radio.
Vous écoutez KTO Radio. écoutez KTO Radio.
Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le Père Jacques-Philippe. Bonjour Père.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, on est dans le temps de Noël. Vous êtes un peu notre Père Noël avec votre petite barbe blanche, donc soyez le bienvenu. Vous avez 70 ans, vous êtes membre de la communauté des Béatitudes depuis 1976, et vous venez de publier un livre intitulé « Le bonheur où on ne l'attend pas, méditation sur les Béatitudes », paru aux éditions des Béatitudes. Voilà, donc les Béatitudes, c'est bien présent dans votre vie, vous allez nous en parler, ainsi que de vos autres succès en librairie, comme « Recherche la paix pour celui-là »,« Du temps pour Dieu », »,« La liberté intérieure », et surtout nous raconter un petit peu votre chemin spirituel qui a permis de nourrir ces livres. Auparavant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
Alors en fait, j'ai choisi donc un passage de l'évangile de Saint-Luc, au chapitre 10, versets 21-24. « À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint, et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. »
Alors vous ressemblez un peu quand même, et surtout quand vous lisez, un peu à un sage et un savant. Et pourtant, il semblerait qu'en lise les livres, que Dieu vous ait révélé un petit peu des choses. Donc vous êtes aussi un peu tout petit. Vous vous situez où ?
J'essaie d'être petit. Et puis je crois aussi qu'avec le temps, avec l'expérience, Dieu nous montre en sans cesse notre petitesse, hein, que nous sommes vraiment très peu de choses. Mais en même temps, ce qui est très beau, c'est que Dieu nous montre combien nous sommes peu de choses, combien nous sommes totalement dépendants de lui, de sa miséricorde. Mais en même temps, il nous révèle aussi toute sa tendresse, sa bonté. Enfin, c'est ça qui me touche beaucoup dans ce texte, parce qu'on y sent la joie profonde de Jésus quand le Père se révèle, à travers lui, bien sûr. Jésus nous fait connaître le Père, et je crois que cette révélation du Père, qui se montre à nous comme un Père de bonté, de tendresse, de douceur, d'humilité, de miséricorde, de fidélité, je crois que c'est le plus grand cadeau qu'on puisse souhaiter à quelqu'un. Enfin, si je peux souhaiter un beau cadeau de Noël pour tous les auditeurs, c'est vraiment de recevoir à travers l'enfant Jésus une connaissance plus profonde, hein, de Dieu dans sa tendresse.
Cette connaissance justement plus profonde de Dieu dans sa tendresse, aujourd'hui elle est vraiment différente de celle que vous aviez en 1976 par hasard ?
Peut-être, oui. Oui.
Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que vous connaissez de mieux ? Qu'est-ce que vous connaissez mieux ?
Je connais mieux la miséricorde de Dieu, je crois que je connais mieux sa fidélité, parce qu'avec le temps, évidemment, on expérimente que Dieu est fidèle. Bon, je connais mieux ma pauvreté aussi, mais je dirais que... Oui, je crois... Alors, c'est pas de manière évidemment spectaculaire ou à travers des expériences extraordinaires, mais je dirais lentement, à travers le temps, à travers les expériences, à travers la prière, à travers l'écoute de la parole, eh bien, je crois qu'il y a un visage, enfin, qui se dessine, je dirais, peu à peu. Et puis avec une certaine précision, si je peux dire. Enfin, en même temps, Dieu est toujours inconnaissable, et au-delà de ce qu'on peut penser, mais en même temps, il y a quand même un visage qu'on découvre et qui est très très beau. Justement, je crois que l'essentiel, c'est la paternité de Dieu. Enfin, et combien on est heureux de dépendre de Dieu, de tout recevoir. Je crois que c'est ça la beauté de la vie chrétienne. Hein, être fils, c'est la grâce de l'adoption filiale, par le don de l'Esprit, c'est que nous apprenons à tout recevoir de la main du Père. Mon identité profonde, ce que je suis, ce que je possède, ce que je fais aussi, bien tout trouve sa source dans le regard du Père.
Et c'est très bon. Quand vous parlez de vos faiblesses qui s'accumulent avec le temps, c'est les manques d'amour notamment ?
Oui,
enfin, les infidélités ?
C'est pas qu'on accumule les infidélités, mais j'espère pas trop. Mais je dirais que un petit peu, plus la lumière est intense, plus on voit les petits détails. Donc, quand on entre dans la lumière de Dieu, par la prière par exemple, eh bien, on voit mieux aussi les petites parts d'orgueil, la dureté de cœur, nos égoïsmes, à quel point on peut être centré sur soi, à quel point on n'aime pas suffisamment les autres. Donc,
Alors, à certains moments, ça peut être un peu douloureux, parce que nous voyons tout ce qui nous manque, mais ce qui est très très beau, c'est que dans le même moment où Dieu nous révèle justement ce qui a besoin de changer, de se convertir en nous, en même temps, il nous montre la générosité de sa grâce, et que tout ce qui nous manque, eh bien, Dieu est prêt à nous le donner.
Et il n'y a pas des moments quand même où on se décourage? Bah, c'est de soi, hein, pas de l'amour de Dieu, mais de oui, se dire, ça, je travaille là-dessus depuis quelques dizaines d'années et j'ai pas beaucoup avancé.
Oui, oui. Bah, de toute façon, je crois que la tentation du découragement, c'est une des grandes tentations de la vie spirituelle.
Mais vous l'avez expérimenté?
À certains moments, oui, oui, oui.
Vous l'expérimentez encore?
C'est beaucoup plus rare, parce que j'ai appris à m'appuyer beaucoup plus sur Dieu et beaucoup moins sur moi-même, donc je suis beaucoup plus libre. C'est un des avantages de la vieillesse. Voilà. C'est une tentation, bien sûr, mais justement, je crois qu'un des combats fondamentaux de la vie chrétienne, c'est l'espérance. Hein. Espérer contre toute espérance. Il y a un prêtre qui m'a dit une fois une phrase qui m'a aidé dans la confession, il m'a dit « Quand tu ne crois plus à ce que tu peux faire pour Dieu, crois encore à ce que Dieu peut faire pour toi. » Et je crois que même si nous sommes parfois pauvres, impuissants, si nous touchons nos limites, ce qui est bon d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on acquiert un petit peu d'humilité, je crois que l'amour de Dieu est tellement plus grand que tout cela. Dieu est tellement généreux, tellement riche en miséricorde, que dans le fond, on comprend qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est s'abandonner entre ses mains, et puis c'est tout. Ne pas trop se regarder soi-même, faire confiance, s'abandonner entre les mains de Dieu, puis laisser Dieu agir dans notre vie. Et puis, si on laisse Dieu agir, eh bien, il fait de belles choses.
Oui. En même temps, c'est pas toujours facile de laisser Dieu agir dans sa vie, parce que c'est pas je suis dans un fauteuil et j'attends que Dieu agisse dans ma vie. C'est
ah non,
que
pas du tout.
Je tiens des rênes et c'est Dieu qui tient encore les rênes derrière, c'est un peu ça?
Oui, mais...
Comment je fais pour agir, choisir, poser des actes et en même temps être sûr que je suis dans le plan de Dieu?
On n'est pas toujours absolument sûr, mais ce qu'il faut, je dirais, c'est chaque jour, simplement, faire le bien qui dépend de nous. Il ne s'agit pas d'être paresseux, mais le bien qui dépend de moi, ce qui est me demandé par ma vocation, ce qui est mon devoir, ma tâche aujourd'hui, l'accomplir avec générosité. Mais en même temps, toujours, je dirais, en s'appuyant sur le Seigneur, en ne regardant pas ses limites, mais en essayant d'être ouvert à sa grâce, à travers la prière, la confiance, être ouvert à la grâce de Dieu, puis expérimenter que, de manière discrète, parfois cachée, mais réelle, enfin, cette grâce nous accompagne et nous porte. Donc, moi, je crois que c'est ça le grand secret de la vie spirituelle, c'est pas de se précipiter dans les mille choses extérieures, en faisant tout à la force du poignet. Bon, il faut être généreux et courageux, ça, c'est clair. Sinon, on peut pas avancer. Mais en même temps, je pense que le grand secret de la vie spirituelle, c'est de savoir se rendre réceptif à la grâce de Dieu, hein, et de découvrir et de pratiquer au quotidien, fidèlement, jour après jour, découvrir et pratiquer les attitudes de cœur qui nous rendent ouverts à la grâce de Dieu. Et spécialement, je dirais, cette attitude, on nous parle de l'Évangile, il révèle son amour non pas aux puissants, aux sages, aux savants selon le monde, mais aux tout petits. Donc cette petitesse dont on parle tellement bien, la petite Thérèse. Enfin, je peux dire que mon grand maître pour la vie spirituelle, c'est Thérèse de Lisieux, qui nous enseigne justement de manière concrète, à travers beaucoup d'exemples dans sa vie, qu'est-ce que c'est qu'être petit devant Dieu. Alors, je crois qu'être petit, c'est pas du tout être, je dirais, se laisser aller. Au contraire, ce qui est très beau chez Thérèse, justement, c'est qu'il y a en elle des désirs immenses. Il y a un très très fort désir de sainteté, un très fort désir de Dieu. Mais justement, plus on désire de grandes choses, plus on s'aperçoit qu'elles ne sont pas à notre portée. Donc je crois que c'est ça un petit peu la petitesse de Thérèse, un grand désir d'aimer, de sainteté, de donner sa vie pour l'Église, pour le monde, mais tout en sachant que Dieu seul, seule la grâce de Dieu peut construire la maison. Enfin, si ce n'est pas si c'est pas Dieu qui construit la maison, en vain travaillent les maçons, comme dit l'Écriture. Alors, donc, Père, apprendre à s'appuyer sur cette grâce.
Vous avez, vous, un gros combat pour l'humilité, parce que vous êtes quand même un best-seller.
Oui.
Vous avez écrit, je crois, 9 livres, c'est ça?
Oui.
Voilà.
Mais justement, j'ai tellement de sentiments que c'est une grâce et pas une œuvre personnelle.
Attendez, 9 livres, et c'est quoi? C'est un demi-million d'exemplaires vendus, c'est ça?
Ben, plus d'un million, en tout cas.
Plus d'un million?
Alors, je sais pas jusqu'où on est arrivé.
C'est une bataille pour vous, pour l'humilité, ou pas?
Bon, pas trop, parce que je dirais, j'ai suffisamment d'occasions de voir qui je suis. Vous savez, quand on vit en communauté, quand vous avez des frères et sœurs, eh bien, ils savent très bien, avec gentillesse, avec humour, mais de vous aider à pas vous prendre trop au sérieux. Et puis surtout, je dirais que nous faisons tous l'expérience de nos limites. Parfois, je m'impatiente, parfois, je m'inquiète, parfois, je manque d'amour. Bon, donc tout ça, je le vois très clairement. Donc je crois que... Puis le Seigneur nous garde toujours quelque part des petites échardes dans la chair pour nous tenir humbles. Et je crois que c'est très très important.
C'est très très bénéfique. Alors parfois c'est pas confortable, il faudra en être débarrassé, mais qu'il y ait des petites choses comme ça qui nous, en permanence nous montrent un petit peu quelles sont nos limites et qu'on est fragile et qu'on a besoin de miséricorde, ben, c'est une grande grâce parce qu'on apprend à dépendre de Dieu. Et plus, alors ça demande beaucoup d'humilité parce qu'on voudrait tellement être autosuffisant, tout faire par soi-même, c'est très enraciné en nous, c'est le péché le plus profond, hein, vouloir se passer de Dieu finalement. On voudrait parfois être parfait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement ne plus avoir besoin de miséricorde. Alors c'est pas ça la perfection chrétienne. Au contraire, la vraie perfection, c'est d'apprendre de plus en plus à dépendre de Dieu. Alors d'abord, on apprend à dépendre de Dieu parce qu'on, justement, on a besoin de pardon, de miséricorde, mais cette dépendance, elle nous entraîne finalement peu à peu à tout recevoir de Dieu, à tout recevoir de la main de Dieu comme un cadeau. Et pour moi, les livres que j'ai écrits, bon, j'en suis content, je peux pas dire que je suis pas content parce que je suis heureux que beaucoup de gens aient été touchés par mes livres, mais pour moi, c'est d'une clarté absolue que c'est un cadeau du bon Dieu. Enfin, j'ai jamais pensé écrire de ma vie. Donc, quand j'ai été ordonné prêtre, j'ai eu assez souvent l'occasion de prêcher les retraites, en France, à l'étranger aussi, bon, pendant quelques années. Puis il y a certains thèmes que j'ai approfondis, justement, sur la prière, la paix intérieure, la liberté. Bon. Et puis au bout de quelques années, je me suis dit, tiens, mais je me rends compte que ce thème dont je parle, dont j'ai parlé assez souvent dans des retraites, ça fait du bien aux gens. Je me rends compte que ça les encourage, ça les aide, ça les réconforte. Donc je me suis dit, après tout, pourquoi je ne prendrais pas mes notes de retraite, puis je ferai un petit bouquin avec, et on verra bien, j'ai rien à perdre. Donc c'est comme ça, je ne sais plus, c'était en 91, 92.
Que ça a commencé, que l'histoire a commencé.
Donc là, j'ai commencé à prendre des notes d'une retraite que j'avais prêchée souvent sur la paix intérieure, et puis j'ai écrit un petit bouquin, donc j'ai rajouté des citations bibliques, des citations d'auteurs spirituels, tout ça. Et puis ça a été publié, puis c'est bien parti.
Et alors le petit dernier
petit dernier voilà.
Le petit gros dernier, c'est quoi la fine pointe de ce livre?
Justement, c'est... c'est une méditation sur les béatitudes, hein, dans l'évangile de saint Matthieu, hein, heureux les pauvres.
Texte sublime et révolutionnaire, pas tout à fait compréhensible quand même. Hein.
Pas très facile à comprendre. Mmh. Alors c'est un peu d'essayer d'entrer dans la compréhension de ce texte à partir de mon expérience, à partir aussi de l'Écriture elle-même. Je cite beaucoup l'Ancien Testament, mais c'est d'essayer de montrer à combien ce message des béatitudes est libérateur. Combien ça nous entraîne vraiment à l'union à Dieu, à une ressemblance avec le Christ, à une maturité spirituelle, à une liberté. Que la pauvreté dont parle Jésus, bon, c'est pas la misère, c'est pas le laisser aller, bien sûr, mais c'est justement cet esprit de petitesse dans lequel on se connaît dans ses limites, mais on est heureux de dépendre de Dieu et on apprend à tout recevoir de la main de Dieu, comme je le disais. Et je pense que chacune des béatitudes nous aide justement, eh bien, à nous ouvrir à la présence et au mystère de Dieu, à l'amour du Père qui, dans la mesure où on comprend les béatitudes, on essaie de les pratiquer, eh bien ça nous ouvre de manière très belle à la présence, à la grâce de Dieu dans notre vie.
Alors Père, dites-moi, quelle est la béatitude qui vous touche personnellement le plus?
C'est donc heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et je l'aime beaucoup parce que je crois que c'est un besoin d'une urgence énorme aujourd'hui, hein, d'être des hommes de paix, des femmes de paix. Bien sûr, on a nos combats, on a nos limites, le monde est difficile, c'est pas commode d'être chrétien aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de confusion, mais en même temps, je crois qu'il y a vraiment un appel de l'esprit qui me paraît extrêmement important à recevoir la paix de Dieu et la garder dans notre cœur. Alors on pourrait dire, mais comment c'est possible d'être en paix dans un monde? Si, c'est possible, parce que c'est pas une paix qu'on fabrique avec des moyens humains, c'est pas la paix parce que tout va bien, tout me satisfait, c'est une paix qui est un don de Dieu. Jésus l'a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et avant sa passion, et là, c'est un cadeau énorme aussi. Ça fait partie des cadeaux de Noël aussi, cette paix messianique qu'annonce l'Écriture de manière splendide. Parce que je crois qu'on a vraiment besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes de paix, capables d'accueillir la paix de Dieu, et puis cette paix de la communiquer autour d'eux. Mais trop souvent, nous communiquons nos inquiétudes, nos tensions, nos stress, nos angoisses, nos peurs. Et puis, ça fait pas forcément du bien aux gens avec qui l'on vit. Tandis que quand on peut communiquer autour de soi, je crois que c'est possible. C'est pas possible tout seul, mais c'est possible justement dans la mesure où on est en communion profonde avec le Seigneur, par la foi, la prière, l'amour.
Et notamment le Seigneur auprès de qui on a déposé tous ces soucis.
Oui, exactement.
Qui permet de... pas la tête enfouie dans le sable. Hein.
C'est, non, pas du tout.
C'est être réaliste et en même temps déposer auprès du Seigneur qui lui peut vraiment porter tout cela.
Oui.
Et ensuite remplir notre vide de paix et la distribuer autour.
Oui, oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans une paix parfaite. Moi-même, je sais bien qu'il y a des moments où je peux être un peu agité, un peu inquiet pour des raisons, parce qu'on reste des êtres humains. Mais quand même, je dirais qu'avec le temps, avec la grâce surtout, c'est de l'ordre d'une grâce, on apprend à s'enraciner davantage dans la paix divine. Cette grande paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, comme dit saint Paul. Oui, et Dieu est un abîme de puissance, d'énergie, de feu, mais en Dieu, il y a aussi une paix, une douceur extraordinaire. Et je pense que cette paix de Dieu, on en a besoin, parce que dans la mesure où on accueille en soi-même cette paix de Dieu, eh bien qu'on peut être disponible au travail de la grâce. Et qu'on peut communiquer autour de nous aussi cette paix, enfin, une paix, un encouragement, une espérance, une consolation. Je crois qu'il... Enfin, en tant que chrétien, bon, nous sommes des hommes avec nos fragilités, nos faiblesses, mais je crois que par la grâce du baptême, nous recevons un don extraordinaire. Cette présence de Dieu dans notre cœur, qui peut devenir peu à peu la source de ce qui émane de nous. Et quand on se laisse peu à peu habiter par Dieu, ben justement, ce qui émane de nous, c'est ce parfum. J'aime beaucoup la parole de saint Paul qui dit « Soyez la bonne odeur du Christ ». Et quand on baptise un enfant, c'est très beau chez les orthodoxes, par exemple, il oigne de l'huile parfumée des pieds à la tête. Et donc on a reçu cette onction du crème, qui est une huile parfumée. Et je crois que ce qui est propre à la vie chrétienne, et c'est ce qu'on trouve dans les béatitudes, c'est d'émaner un certain parfum, justement. Parfum de simplicité, de petitesse, d'humilité, de douceur, de tendresse, de bonté, de miséricorde, d'espérance, de paix.
Père, vous avez été donc baptisé, vous êtes né dans une famille chrétienne du côté de l'Est. Oui. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, à 18 ans, vous vous sentez particulièrement attiré, vous?
Oui, ben, c'était assez inattendu parce qu'en fait, disons, j'avais mes projets, je voulais donc faire une école scientifique, donc je devais venir à Paris, à Ginette, donc pour faire une prépa, j'avais pu entrer là-dedans parce que j'avais pas de trop mauvaises notes à l'école. Puis j'avais envie de faire des sciences, j'aimais bien l'astronomie, tout ça, enfin la physique, ça me passionnait pas mal. Donc j'avais projeté, je dirais, mon avenir dans ce sens-là. Puis voilà que le collège où j'étais était un collège catholique qui proposait donc aux élèves de terminale, avant de partir à droite et à gauche, d'avoir un peu un temps fort spirituel, donc une retraite de 5 jours. Alors j'y suis allé. J'étais pratiquant, croyant, pas de manière extrêmement intense, mais enfin quand même. Et puis, voilà que durant cette retraite, c'était tout à fait inattendu. Et puis, j'ai senti quand même très vite que Dieu m'appelait à tout lui donner.
Comment c'est... Ben, vous c'est qui aimiez plutôt les chiffres, les trucs un peu carrés, ça a été une formule mathématique?
Non, pas du tout. Enfin, ça n'a pas été des mots, mais c'était un sentiment intérieur. Oui, comme une espèce de petite voix, même pas une voix, un sentiment intérieur qui me disait, mais est-ce que tu ne donnerais pas ta vie à Dieu? Alors, j'ai commencé par refouler ça, de me dire... Non, pas du tout. Puis j'avais tous les raisonnements, évidemment, pour dire « Mais non, j'avais une petite amie, je ne vais pas la lâcher comme ça, elle va pleurer. » Et puis, je me dis « Il faut qu'il y ait des chrétiens dans le monde scientifique, c'est vachement important. » Donc, j'ai trouvé quelques bons raisonnements pour refouler. Mais disons que je n'ai pas pu résister parce que...
Ça a mis un peu de temps quand même.
Non, ça a été assez rapide, ça a pris quelques jours.
Oui, mais vous avez quand même étudié les mathématiques, vous avez été professeur de maths.
Disons que... Parce que voilà, pendant cette retraite, disons que... Là, je n'ai pas résisté très longtemps, je n'ai pas une grande capacité de résistance. Donc, pendant la retraite elle-même, j'ai dit oui au Seigneur. J'ai dit, OK, Seigneur, je veux bien.
Mais à mes conditions.
Non, je n'ai pas mis de conditions. Non, je n'ai pas mis de conditions. Je te donne ma vie. Alors, j'ai parlé avec le père qui accompagnait la retraite, puis qui m'a dit, écoute, moi, je crois que c'est authentique ton appel, si tu veux. Donc, c'était des religieux chez qui j'étais... donc à l'école, et que j'aimais bien une communauté, j'aimais bien les prêtres, ils avaient un style simple, enfin, proche des élèves, et il me dit, écoute, si tu veux, moi je crois il y a un noviciat qui commence à la rentrée, pourquoi pas. Alors moi j'ai dit, ok, ça marche. Alors je suis revenu de la retraite en disant à ma famille, écoutez, je vais changer un peu mes projets, je vais pas à Paris faire ma prépa, j'ai décidé de rentrer dans cette communauté religieuse. Bon, alors ils ont été évidemment un peu surpris, mais ils sont bien accueillis, ils ont accepté sans aucune difficulté, même si c'était pas du tout dans leur... Donc c'est ce qui s'est passé. Alors, disons que le début était très beau, parce que j'ai fait le noviciat, qui est un peu la découverte de la prière, de la liturgie, de l'écriture, mais après, donc c'est en 65 que donc, je suis rentré dans cette communauté, Et alors après, c'est devenu nettement plus difficile parce que c'était la fameuse époque 68, l'après-concile, toutes les communautés qui devaient refaire la constitution, puis tout le climat, l'invasion des sciences humaines, le marxisme et toutes les idées politiques et la psychanalyse et tout ça là qui s'engouffraient dans les séminaires. Et ça a été c'était très dur parce que, disons qu'il y avait un climat de... Alors, il y avait beaucoup de bonne volonté pour s'adapter au monde moderne, pour dépoussiérer ce qui devait l'être. C'était absolument nécessaire.
Et c'était trop brutal.
Oui. Puis, surtout, il y a un manque de discernement. Parce qu'il n'y avait pas une vie spirituelle assez profonde. Mmh. Et puis, un manque de discernement aussi, je pense, au niveau un peu philosophique et théologique. Bon, j'accuse personne parce que... je crois que c'est... Bon, enfin... Mais c'était quand même douloureux parce que beaucoup de prêtres partaient. Le prêtre qui était mon père spirituel en philo, il est parti se marier à la fin de l'année. Donc, c'est vrai que ce n'était pas très, très encourageant pour les jeunes. Donc, moi, j'étais jeune, là, j'avais donc 20 ans, enfin, j'étais retraité à 18 ans, donc c'était au bout de 2 ans et demi, 3 ans que j'ai quitté. Je me sentais pas de continuer dans un climat... on savait plus qu'est-ce que c'était qu'être prêtre, est-ce qu'on doit vivre en petite communauté en grande, qu'est-ce qu'on doit changer, pas changer dans la liturgie. Tout était mis en discussion et je me sentais pas de continuer. Donc j'ai quitté. À ce moment-là, bon, c'était un peu douloureux, puis j'ai eu un petit moment où je me suis un peu éloigné du bon Dieu, quand même. J'ai arrêté de pratiquer. Enfin, je voulais pas quitter Dieu, mais quand même, j'ai eu un moment un peu de faiblesse. Je me suis un peu laissé aller, j'ai moins pratiqué, tout ça. Enfin, ça a duré pas très longtemps, grâce à Dieu, il m'a sauvé. Ça a duré à peu près 1 an et demi, comme ça, un moment un peu dur pour moi, au plan personnel. Puis j'ai senti quand même très très clairement, à un certain moment, que si je m'éloignais de Dieu, j'allais vers la mort. C'est devenu une évidence. Hein, si tu t'éloignes de Dieu, tu vas aller vers la mort. Je l'ai senti. Pas une mort physique parce que j'étais en bonne santé, mais intérieure, une tristesse. Je sentais quand même que ça commençait à me prendre. Donc j'ai eu un sursaut. J'ai décidé de reprendre le contact avec Dieu. Donc j'ai fait une retraite dans un monastère chez les trappistes, vraiment pour prier, me remettre en contact avec Dieu. Et là, ce que Dieu m'a fait comprendre, ça a été extrêmement simple. Il m'a dit que je te demande, enfin, c'est pas une voix, mais un sentiment intérieur. Il m'a dit, écoute, je te demande une seule chose. Hein, prends un quart d'heure de prière tous les jours. Je te demande pas plus. Je te demande pas moins. Un quart d'heure tous les jours, sois fidèle. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment été très fidèle à ça. On dira que c'est pas grand chose, mais quand même, on a toujours mille tentations de dire bon, je suis rentré d'une partie des campagnes, il est 1h30. Je la fais quand même. Alors, j'ai eu la grâce d'être fidèle et très très vite, à travers cette fidélité à la prière, j'ai retrouvé la paix d'abord. J'ai trouvé une paix, une confiance un peu en moi dans mon avenir. Alors donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en retournant chez moi, j'ai simplement repris des études. Donc, j'ai été à la fac, j'ai fait des études de mathématiques, que j'avais déjà un peu commencé d'ailleurs, parce qu'on faisait en parallèle le séminaire et puis des études profanes aussi. Donc, j'ai fait des études de mathématiques que j'ai achevées. J'ai commencé à faire de la recherche en mathématiques appliquées à l'informatique. Mais donc, ce qui est revenu, donc la paix est revenue, la vie de prière est revenue. Donc j'ai fait mon travail qui m'intéressait, mais quand même au bout de quelques années, de nouveau cette question. Bon, j'aime les maths, j'aime les sciences, mais est-ce que je donnerais pas ma vie à Dieu quand même? Mais là, j'étais plus conscient de mes limites aussi, plus perplexe. Et donc à ce moment-là, j'ai été faire à nouveau une retraite. Donc c'était après le service militaire, j'avais 27 ans. J'ai fait mon service à Paris, là, dans l'armée de l'air. Et puis au retour du service, donc j'ai été faire une retraite, parce que je me disais, il faut vraiment que j'y voie clair par rapport à mon avenir. Donc j'étais à l'abbaye des Dombes, près de Lyon, qui est pas loin du village d'Ars. Donc j'ai été faire une retraite là, et pour vraiment poser la question à Dieu, qu'est-ce que je fais de ma vie? Pas, silence. Et puis il y avait un gars qui faisait un petit moment une retraite au monastère, un brave gars qui travaillait au métro à Paris, qui m'a dit t'as pas envie d'aller à Ars? Alors je dis je connaissais pas. Il me dit je dis ok, pas de problème. Donc on est parti. Il m'emmène à Ars, il avait sa voiture, donc on visite Ars. Bon, j'ai visité l'église, la maison du curé, j'ai vu la chasse, tout ça. Bon, puis on est rentré au monastère. Ça m'avait pas impressionné plus que ça parce que je connaissais pas le curé d'Ars. Je me dis quand même, je suis passé à côté de quelque chose. Donc je vais à la bibliothèque du monastère. Qu'est-ce que je trouve? Je cherche une vie du curé d'Ars. J'attrape une vie du curé d'Ars et j'ai passé toute la nuit à la lire en fait. Et là, ça m'a beaucoup touché quand même. Enfin, l'humilité de ce prêtre, son amour incroyable pour le Seigneur, sa générosité, ça m'a bouleversé quand même la vie de cet homme-là. Et puis donc le lendemain, je devais partir de ma retraite parce que c'était fini et j'avais pas de réponse. Alors, j'étais un peu déçu quand même. Et puis, j'avais ma voiture aussi. Donc, en repartant, je me disais, pourquoi je repasserai pas à Ars? J'ai eu un petit déclic comme ça. Et donc, c'était pas loin, c'était un quart d'heure ou 20 minutes, je sais plus. Donc, je repasse à Ars, j'entre dans l'église d'Ars, je me confesse. À Ars, évidemment, faut se confesser. Et puis, il y avait une messe qui commençait. Donc, je me suis dit, je veux pas y rester parce que j'avais eu le messe le matin au monastère. Mais, je sais pas. Quelque chose qui m'a fait rester à la messe quand même. Puis voilà que le prêtre s'avance, il lit l'évangile, il ouvre l'évangile. Et l'évangile, c'était si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel, viens et suis-moi.
Ça, c'était pour vous.
Ah oui, ça m'a transpercé. Là, vraiment, j'ai pleuré comme une madeleine. Bon, ça m'a vraiment transpercé. C'était vraiment la réponse de Dieu. Ça ne pouvait pas être plus clair. Donc là, j'ai vraiment senti que Dieu m'appelait à vivre pour lui et que donc j'allais continuer peut-être à faire des mathématiques pendant quelques temps, mais que ça n'allait plus être très long. Mais le problème, c'était où aller. Parce que, disons que c'était donc ça, c'était en 75 à peu près, 75, oui. Et la situation de l'Église en France était quand même pas toujours très facile. Dans les séminaires, dans les communautés religieuses, on n'était pas encore sorti quand même de la crise. Donc, moi, j'hésitais un petit peu à remettre les pieds dans. Enfin, j'avais fait un peu un essai auprès d'un séminaire là, mais j'avais été un peu déçu. Il y avait une journée pour les jeunes qui se posaient la question, mais j'avais été très très déçu par l'esprit dans lequel les choses étaient présentées. Ça me rejoignait pas du tout parce que moi, ce qui me nourrissait à cette époque-là, c'était j'avais quelques amis avec qui on priait, puis ce qui me nourrissait beaucoup, c'était comme la vie des saints. Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux. Enfin, je trouvais ma nourriture que
finalement, oui, les circonstances ont fait que vous avez pu rencontrer les béatitudes.
Oui, alors justement, donc là, je cherchais, et puis en fait, par hasard, 6 mois après, j'ai rencontré la communauté des béatitudes.
Où vous êtes toujours depuis un petit moment maintenant, 40 ans.
Oui, voilà.
40 ans.
Ce qui m'a beaucoup touché dans la communauté, donc elle avait 1 an et demi d'âge. Il y avait 2 maisons seulement à ce moment-là. Il y avait la maison de Corde et puis une maison en Israël à cause de cette vocation de prière pour Israël qui est importante pour nous. Et donc je suis rentré à Corde. Et enfin, j'ai connu la communauté, puis j'étais très 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 touché par l'intensité de la prière, enfin la ferveur de la prière, la beauté de la liturgie, une présence du Saint-Esprit, puis un désir de sainteté, puis une très très belle vie fraternelle aussi avec des gens d'origine très différente, avec des hommes, des femmes,
et
des gens mariés, des célibataires.
Vous y êtes resté malgré les tumultes dont on a déjà parlé sur l'antenne, qui fait que vous en faites toujours partie, vous y êtes bien aujourd'hui. Oui. On arrive déjà, hélas, à la fin de cette émission. Je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu », par quoi dois-je commencer ?
Par la prière, ce que j'ai dit tout à l'heure, 1 quart d'heure de prière tous les jours.
Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ?
Oh, il y en a beaucoup, parce que les saints, c'est un tel vitrail de merveilles. Bon, j'aime beaucoup Thérèse de Lisieux, François de Sales, bon, beaucoup d'autres.
Qui se reconnaîtront ?
Oui.
Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ?
Tu m'as fait confiance.
Ben écoutez, merci beaucoup d'arrêter notre cadeau de Noël. Merci pour ce partage et puis cette joie qu'on sent présente en vous. Merci pour ce temps et merci à vous tous pour votre fidélité. Pour voir ce programme, évidemment, n'hésitez pas à aller sur notre site ktotv.com. À la semaine prochaine et joyeux Noël.
Radio. No.